l'a eu. Ah, quel beau lundi. Juste des gens qu'on aime. On est évidemment autour de la table Dracula.
Oui, Dracula le vampire.
Dracula le vampire. Ouais. Et sinon, moi, dans ma ref à moi, c'est l'incroyable Hulk.
Bien, je fais ton ça.
Attends, il faut que tu penses qu'on va enlever, nous. On a des fausses dents en ce moment pour ceux qui écoutent. Non, non, on va enlever les fausses dents.
C'est vrai, dents. Bon, c'est Simon et Taylor.
C'est Simon et Taylor.
Ah, voyons, je connais quand même.
C'est plus facile.
Joyeux Halloween.
Joyeux Halloween.
Depuis tantôt, je t'ai terrorisé. Je disais, voyons qu'on a un vampire dans le studio. Non, non, non,
non.
Qui le sort.
Je ne sais toujours pas c'est quoi le déguisement de Tyler, par exemple.
C'est-tu l'incroyable Hulk?
C'est le Grinch.
Non, c'est le monstre de Frankenstein, Frankenstein.
Le Frankenstein, le monstre de Frankenstein.
Il est vert.
Oui, il est vert.
Depuis quand? Oui.
Ben oui, Boris Kerr.
Tout se verdit aujourd'hui.
Et vous portez d'ailleurs une petite veste de laine verte, Michel Desautels, le grand Michel Desautels qui est avec nous. Je suis très, très content de vous voir. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu.
Ah ben oui, je croyais que j'avais été banni de la famille, entre guillemets.
Ouais.
Invité d'honneur il y a quelques années, je n'étais plus rien.
Elle est rendue bizarre, la famille. Hein? On ne la comprend plus trop.
Oui, il y en a qui sont, y en a qui sont les grands pardus ou les grands partis. Il y en a qui tournent. C'est dur de s'y retrouver, mais en tout cas.
C'est très, très dur.
Reconstituée, qu'on dit.
Famille reconstituée, voilà, parce qu'il n'y a plus d'invités. Invité d'honneur comme tel.
Non, non, c'est fini.
J'aimais beaucoup les invités d'honneur. Je m'ennuie d'Anne-Marie, je m'ennuie d'Élise.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Élise.
Je le sais, je la vois même plus au théâtre.
Ben voyons.
Vit-elle toujours seulement?
Bon.
Elle est rendue un vampire!
Vous avez l'air bien, Michel.
Plutôt. J'arrive à faire illusion sans maquillage, je précise.
Vous êtes vert aussi, par exemple. Vous êtes vert du...
Vert doux.
Vert d'eau.
Est-ce que vous vous ennuyez des fois? Tout le monde doit vous poser la question. Mais quand même, c'est une drogue, le micro. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites, il me semble que j'aimerais ça, pouvoir commenter, poser des questions, recevoir quelqu'un pour en comprendre davantage?
Pas du tout.
Jamais?
Non.
Ah!
Non, non, je l'ai fait une fois il y a un an et demi à Matane où ils avaient
besoin
de...
Oui, pendant tout l'été.
Ben, un mois.
Un mois,
ils avaient besoin de personnel parce que des maladies, des congés, etc.
Ouais.
Et puis, ils cherchaient des jeunes. Les jeunes, ils ne veulent pas travailler, c'est
connu. Ben non.
Alors,
ils veulent faire une quotidienne un jour semaine.
Oui, et payer comme s'ils étaient top.
Puis après ça, s'occuper de leur vie.
Oui. Moi, j'avais aucune de ces conditions-là, donc j'avais accepté, effectivement.
Et vous n'avez pas aimé ça?
Non, j'ai adoré ça, mais après ça, je me suis dit, la vie est trop courte, et les étés aussi, donc se lever à 4 heures pendant, je ne sais pas, 4-5 semaines, c'est trop, donc j'ai dit non.
Puis la radio de matin, après...
Ah, mais ça, par contre, c'est le bonheur. Non, non, tout, des vrais sujets intéressants, du vrai monde, d'histoire jusqu'aux îles de la Madeleine, et tout ça, c'est formidable. Beaucoup de Montréal, les gens qui trouvaient ça trop ennuyeux à la radio montréalaise, qui nous écoutaient à matin, parce qu'on peut
faire ça. Qui faisait le 15-18 d'été, cet été-là?
Moi, je sais pas, ça dérange rien parce que je faisais la matinale. Donc,
la matinale.
Essayez pas de me mettre en compétition avec mes camarades.
C'était pas Masbo à l'époque qui remplaçait lui-même avant d'être lui-même.
Je sais pas.
Il y a deux ans l'été. Non.
Ah mon Dieu.
Il est dans sa cinquième saison.
C'est Maxime Coutier. Vous êtes en train de faire une sortie contre Maxime Coutier, Michel
Desautels. Si vous croyez m'amener là-dedans.
C'est intéressant, Michel Desautels. Vous venez nous présenter un livre dont on va parler tantôt, où il est question de votre enfance à travers les odeurs qui ont jalonné votre enfance. C'est les odeurs dont vous vous souvenez. Est-ce que vous avez des souvenirs de l'Halloween? Dans votre enfance, des souvenirs
olfactifs
de l'Halloween.
Moi, j'étais l'aîné de 4 enfants. Et donc, les costumes, j'en ai peut-être porté, mais j'en ai aucun souvenir.
Ah.
Par contre, je me souviens d'avoir accompagné frères et sœurs, comme le grand qui tient la main des petits, puis qui est passé de maison à l'autre. Donc, le costume, l'Halloween... En fait, il y en a un costume d'Halloween qui m'a marqué et qui a marqué beaucoup de monde, mais ça, c'est beaucoup plus tard dans la vie. Je me déguisais en homme invisible. Ceux qui me connaissent disent qu'il n'y avait pas un grand pas à faire parce que finalement, je suis assez discret. Mais sérieux, avec bandelettes, le Fedora,
des gants noirs,
des gants, etc. Et j'étais méconnaissable.
C'est sûr.
Sauf dans un bar que je fréquentais souvent où je suis allé. Et puis, je débarque à l'heure de l'apéritif. Et la serveuse, qui doit nous écouter aujourd'hui d'ailleurs parce que... assez jeune pour ça. Elle dit « Ah, bonjour, Michel! » Ah, moi, la face m'a tombée. On s'en est pas rendu compte, mais elle m'avait reconnu tout de suite. Mais j'ai porté ce truc-là souvent et avec énormément de succès. J'adorais ça. Seul problème, c'est que tu peux pas manger. Par contre, tu peux boire. Alors, j'avais des pailles. Fait que j'avais des
pailles. C'est pas ingénieux.
Un gars qui a soif, c'est un gars qui a soif. Et donc, j'ai usé pas mal de paille pendant ma soirée, ce qui fait que j'étais pas un homme de paille, mais j'étais blanc comme comme
mes bandelettes. Cette intelligence-là en onde.
Oui, c'est bien tourné.
Toutes des niaiseux en onde à cette heure. On va se le dire.
Des noms.
Ben, nous autres, pour commencer. Ouais. Remettez vos dents, l'émission va commencer dans 30 secondes.
Excusez-moi, là.
Votre plus beau souvenir d'Halloween, Olivier?
Mon plus beau souvenir?
Ouais.
J'ai pas des beaux souvenirs d'Halloween.
Avez-vous des souvenirs, vous?
Ben non, mais l'odeur d'Halloween, par exemple, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais jamais vraiment de déguisement. Je me choisissais un déguisement à dernière minute. Fait que mon odeur d'Halloween, c'est le swing, parce que je mettais souvent mon équipement de hockey comme déguisement.
Mais vous aviez du swing à cet âge-là? Il me semble que la transpiration, ça arrive à dos.
J'étais un gros suant, moi.
Ah, que... Oh mon Dieu, Michel Desautels n'aimerait pas ça, parce qu'il est très près des odeurs. On en parle dans sa cartographie des odeurs publiée chez Boréal. Si vous n'étiez pas là pendant le prologue, on a le grand Michel Desautels qui est ici, dont on s'est ennuyé. Une légende, un visage rassurant, une voix rassurante, un esprit fin qui nous fait du bien.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités.
Je suis nostalgique d'entendre des voix comme la vôtre. Et j'aime tout le monde ici en onde. Tout le monde fait un beau travail. Mais en vrai, je pense que je suis nostalgique des grandes voix. Nostalgique. Êtes-vous nostalgique de Michel Desautels? Écrivez-nous.
Les gens ont toujours été nostalgiques.
Ah ben ça! Simon et Taylor autour de la table, oui, déguisé en Grinch de Noël.
Oui, ben je fais ton chant.
Il va sucer mon sang, dit-il. Oui. Et évidemment déguisé en vampire. Olivier Niquet, qui sentait la transpiration très jeune.
Oui, oui, oui.
Mais c'est là-dessus que j'aurais dû sursauter. Mettre son kit de hockey puis être déguisé en joueur de hockey, c'est bien niaiseux.
C'est paresseux.
C'est pas créatif.
Non.
Ça vous tentait pas de mettre une belle robe, quelque chose, là? Vous avez ici l'Halloween. Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez petit?
J'aimais ça quand j'étais petit, là, mais pas assez pour moi. J'aime pas ça me déguiser.
OK.
Je vais peut-être me déguiser vendredi, par contre.
Mais non, je serai pas là. Déguisez-vous mercredi.
Okay. Déguisez-vous aujourd'hui.
Moi, je serai déguisé mercredi et j'ai un costume très sexe. Pour vrai, on va le nommer comme tel. C'est un costume très sexe.
C'est quoi?
Vous le verrez.
De sexe masculin?
De sexe masculin. Okay. Absolument. Bienvenue à la journée est encore jeune.
Nickel. 24 sur.
Ouais, ben c'était le congrès du Parti libéral du Québec en fin de semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? Merci de me poser la question, Jean-Sébastien. Ben, j'ai lu un livre, j'ai joué au pickleball aussi et j'ai repassé mes débarbouillettes tout en regardant le congrès du PLQ. C'était vraiment passionnant. Oui. Je parle de mon repassage. Pour le congrès, il faudra repasser. Marc Tanguay était là. C'est sûr qu'on s'en ennuie comme chef, mais on peut toujours quand même compter sur lui pour animer la foule.
C'est comment poser des questions à Christian Dubé?
D'abord, j'aurais une question pour vous. Y a-t-il des libéraux dans la salle? Êtes-vous en forme?
C'est ennuyé, hein?
Nous autres, on est en forme.
Bon, on reconnaît quand même le flair politique de Marc Tanguay. Il a tout de suite vu qu'il allait avoir une réaction positive en demandant s'il y avait des libéraux dans la salle, dans une salle remplie de libéraux. Mais l'énergie de M. Tanguay a déteint sur Pablo Rodriguez, qui était assez craqué aussi.
Là, ça clique, vous avez vu la commission Gala. Là, vous avez un ministre qui arrive et dit « Moi, j'ai rien entendu. » Là, vous avez un autre ministre qui dit « Moi, j'ai rien vu. » Là, vous avez le chef de cabinet du premier ministre qui dit « Moi, j'ai rien vu, puis j'ai rien entendu. » Vous avez le premier ministre lui-même qui dit « Ben moi non plus, j'ai rien vu, puis j'ai rien entendu. » C'est qui gouverne le Québec?
C'est qui qui gouverne le Québec? Excellente question,
Pablo. Juste Suzanne Lapointe.
Apparemment. C'est Kiki, hein?
Donc, apparemment, c'est Hélène Keller qui...
la sourde muette, aveugle.
T'es trop loin, ma blague. Le thème de ce congrès-là...
J'ai jamais cru à cette histoire-là, moi.
Non?
Ben, qu'une femme qui ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas, puisse écrire un livre. C'est un complot, ça.
C'est un complot.
Ever a ghostwriter.
Ever a ghostwriter.
Le thème du congrès libéral, c'était rebâtir, et on pouvait le deviner parce que c'était écrit en gros sur la scène et parce que Pablo l'a répété souvent.
Et la première chose qu'on va faire, on va rebâtir notre parti pour bâtir notre machine libérale. On leur bâtit nos associations. C'est le temps de rebâtir. C'est le temps de rebâtir ensemble. C'est le temps de rebâtir, de reprendre le flambeau. Et il va falloir Il va falloir rebâtir la relation complètement détruite. C'est pas à coup de loi spéciale qu'on va rebâtir. Rebâtir l'économie? Mes amis, c'est le temps de se rassembler dans notre maison commune, de s'allumer un bon feu, de réparer nos fondations, de remettre de l'ordre, une bonne couche de peinture aussi. Alors, vous l'avez compris, on a parlé, on va rebâtir, vous et moi, on va bâtir un Québec où chaque génération peut se réaliser pleinement. Ensemble, on va non seulement battre la CAQ, battre le Parti québécois et former le prochain gouvernement du Québec. Merci beaucoup.
Il va falloir aussi rebâtir nos tympans après cette tournée-là. Donc, après Mike chez Wona, Pablo chez Home Depot, il va refaire les fondations donc, et remettre une couche de peinture. Ça marche pour un 3,5 dans Verdun. Alors, ça devrait marcher pour un parti à 26% dans les sondages. En point de presse, c'est aussi inquiété de la loi spéciale pour les médecins.
Ça va être assez spécial comment on va les appliquer, ces mesures-là. Il va y avoir quelqu'un qui, quelque part, qui va vérifier s'il y a 2-3 médecins dans ce corridor, ils sont en train de se parler. Il y a quelqu'un qui va se cacher dans le panier à linge pour vérifier, voir ce qu'ils disent dans le corridor.
C'est bien possible, un genre de KGB du panier à linge. C'est peut-être ce que le président de la Fédération des médecins spécialistes a en tête quand il dit que la loi spéciale est liberticide.
Il les oblige à travailler en sol québécois. La seule autre juridiction qui a ça en Amérique du Nord, ben c'est même pas en Amérique du Nord, c'est en Amérique, c'est à Cuba. Est-ce que vous réalisez ce à quoi on fait face? C'est un gouvernement soviétique.
Oui, c'est pas juste la loi qui est soviétique, c'est le gouvernement au complet. Il est par la suite allé s'expliquer à Sébastien Bovet, qui est un petit peu perplexe. Petit montage.
Vraiment, c'est du soviétique ce que le gouvernement vous sert aujourd'hui?
Ben écoutez, c'est des, ils nous traitent comme des bandits dans le fond. Le gouvernement.
Et en quoi c'est soviétique?
Ben parce que.
En quoi c'est soviétique de demander à des médecins d'en faire plus?
Parce que d'une part, les jeunes médecins vont être contraints de travailler en sol québécois.
François Legault dit, les médecins gagnent 5, 6, 700 000 $ par année. Les infirmières ne gagnent pas ce montant-là.
Je comprends.
C'est pas très soviétique, ce n'est pas le goulag, là, non?
Ben oui, parce que dans le fond, on ne peut pas quitter. Ils nous mènent une camisole de force, ils nous emprisonnent dans le réseau.
Ben oui, c'est le goulag. Bon, je dis pas que cette loi-là est correcte, je connais pas assez ça
non,
pour
non,
juger.
Non, là.
Mais je sais pas, pour vrai. Je sais pas. Mais j'ai quand même un petit peu l'impression que les gens se rendaient pas en BMW au goulag. Il est pas le seul à penser ça, par contre, certains observateurs sont d'accord, surtout les anciens médecins comme Gaétan Barrette, Yves Bolduc et Amir Kadir.
Je t'invite à lire le projet de loi. Il y a des mots là-dedans qui sont dignes de l'Union soviétique, là.
Le projet de loi, moi, je suis d'accord avec Dr. Oliva, là, c'est un projet de loi soviétique. C'est un mélange de Poutine et Trump, enfin, de Trump.
C'est une dérive qui est autoritaire.
Trump et Poutine, c'est pas exactement le soviétisme, c'est l'autoritarisme. Donc, oui, chez la CAQ, on voit cette dérive depuis assez longtemps.
Bref, un mélange de Castro, Staline, Trump et Poutine. François Legault s'inspire des plus grands. Mais qui gagne à la fin? Bien, sûrement pas le patient, si je me fie à Alexis Samson de Cogeco à Trois-Rivières, qui avait peut-être un peu trop bu de canettes de Monster.
Je suis pas d'un bord
ni de l'autre. Les médecins ou le gouvernement? Choisissez.
Mais qu'est-ce que je choisisse? Moi, je choisis le patient. Dis-tu celui qui choisit le Christ de patient qu'on oublie dans chaque hostie de négociation? Chicanez-vous comme vous voulez. J'en ai rien à battre de vous deux. On peut-tu juste soigner le monsieur qui a besoin d'une opération à l'hôpital? Moi, ce que je veux, c'est être capable d'aller à l'hôpital sans que le médecin me dise « T'as dépassé ton temps, c'était un bobo, faut que tu retournes chez vous. » Chris, c'est moi qui te paye! Je peux-tu te voir puis te parler 5 minutes?
On n'a plus de monde, vous allez devoir attendre. Est-ce que c'est vraiment urgent?
Qu'est-ce que t'en penses, Calvache? T'es à l'hôpital. Je viens pas pour me faire poser des cils. Au dernier message, là, c'est Dr. Oliva, là. M'en crisse de ce que vous dites. François Legault, massacre aussi de ce que vous dites. Faites juste soigner le calvaire de patients.
Enfin, quelqu'un qui le dit, donnez-lui une médaille ou des attivants.
Oui, mais c'est pas Radio-Canada qui l'a dit, hein?
Non. on l'a entendu à Radio-Canada quand même.
Preuve.
Dans un autre ordre d'idées plus ou moins autoritaire, on s'en va au pays du malaise, la Malaisie, où Mark Carney est en visite, comme l'expliquait notre collègue du bulletin de nouvelles.
Mark Carney participera au sommet de l'Association des nazis, des nations de l'Asie du Sud-Est en Malaisie.
Bon, je ne sais pas s'ils vont jaser d'envahir la Pologne, mais si je me fie à Daniel Thibault, c'est pas impossible.
Cette annonce survient alors que Mark Carney est arrivé en Malaisie pour le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ANAS.
L'Association des nazillons. C'est sûr que c'est pas facile à dire en Malaisie pour l'Association des nazillons de l'Asie du Sud-Est, l'ANAS. Compliqué. Je termine avec un peu de sport. Le Canadien Canadien dans l'Ouest pour un voyage de plusieurs jours, ce qui risque de rendre difficile le retour au Centre Bell, comme nous l'a dit Gilbert Delorme à BPM Sport.
C'est ouais. toujours un piège, ça. Les longs voyages, tu reviens à la maison.
C'est la faute des femmes.
Ah ouais, hein?
Développe ton point. Tu sais, les gars reviennent à la maison. C'est normal un peu. Ça fait longtemps que t'as pas vu la madame, la bonne femme, comme je dis, je suis bien. Puis, bading, bading.
Bading, bading, Jean-Sébastien. Ça finit là-dessus. Bading, bading.
Ah, bravo.
Bading, bading est le mot de la fin de cette chronique.
Wow. On savait que Michel Desautels avait du flair pour la nouvelle, un pif d'enfer pour les bonnes histoires, mais on savait pas qu'il était à ce point obsédé par les odeurs. C'est ce qu'on apprend dans son premier récit. C'est pas votre premier livre, mais c'est votre premier récit. Parfum de craquia, c'est publié chez Boréal. Ça sort demain. Rebonjour, Michel Desautels.
Heureux.
Heureux, comme disent les jeunes. On disait ça sur MSN. Heureux. Quand on était parti faire une petite course, puis on était de retour dans la conversation. Okay. Bon, d'abord, je ne vais pas être plate. J'ai beaucoup aimé votre livre. Ça se lit comme de l'eau de roche, comme dirait Olivier. Oui. C'est une plume à votre image. C'est élégant, c'est sensible, c'est précis. C'est une plume qui nous fait sourire, qui nous émeut beaucoup aussi. Michel, vous revisitez votre enfance dans cet ouvrage-là parce que vous avez déjà été un enfant, même si
il y a des gens qui très longtemps, ne croient pas mais ça. Oui.
Bon, vous parlez de votre enfance près de Rosemont, de votre mère, de la découverte de votre homosexualité. Ah non, c'est pas vous. Donc, je le disais en prologue, vous faites une espèce de carte de parfum, une carte des odeurs qui ont meublé votre enfance. Pourquoi vous avez eu envie de faire ça, de nous raconter votre enfance à travers ces odeurs, Michel Desautels?
Parce que, ça m'a toujours fasciné, ce monde de ce qu'on sent. C'est pas juste les parfums, là, on s'entend. Et je trouve que en faisant l'exercice, je le propose à vous qui avez lu de toute évidence mon livre, c'est Guerre et Paix, hein? Enfin pas l'original,
mais
c'est
court. Non, pas Tolstoï, mais 122 pages. Ouais.
C'est court. Lorsqu'on ouvre cette boîte à souvenirs qui est constituée des odeurs que notre cerveau a enregistrées, on ne sait pas trop comment, la science n'est pas très précise là-dessus, mais...
On sait que la mémoire olfactive est extrêmement puissante.
Oui, et peut aller chercher des histoires qu'on a oubliées, mais il y a très, très, très longtemps. Ouais. Donc, moi, ça m'a toujours intéressé. Et en commençant l'exercice pour m'amuser, je me suis rendu compte que c'était très facile d'y associer des émotions. Ouais. Alors, non seulement le souvenir est là, intact, et même très lointain, mais souvent, il y a quelque chose qui est attaché. Une émotion attachée à ça. Ouais. Et en faisant le petit jeu, ben, je me suis rendu compte que c'était extrêmement riche. Et parfois, ça, une porte en ouvre une autre, ouais. parce qu'on tombe dans une époque. Évidemment, chaque chose étant datée, cette carte-là, c'est pas une carte du tendre, quoique il y a beaucoup de choses, vous l'avez dit, d'ailleurs, vous avez été ému, je crois, à la lecture. Donc, mais c'est un nuancier, tiens, d'odeur qui est très complexe et qui nous fait voyager. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais en décrivant. Alors, ça fait partie de ma vie, ça part de l'âge de, je sais pas, 3-4 ans peut-être, pour des premiers souvenirs, ouais. et jusqu'au début de l'adolescence. Mais c'est très riche.
Ouais. L'odeur des pétards qu'on mettait dans nos revolvers, qu'on grattait avec une petite roche, l'odeur de votre berger allemand princesse, l'odeur de ses petits chiots, l'odeur de leurs oreilles, l'odeur du catalogue Canadian Tire, l'odeur des baisers de Nina. Michel, c'est qui Nina?
Ben Nina, c'était... Il n'y a pas beaucoup de premières dans la vie.
Non. Hein?
Nina, c'est pas mal une première, je dirais. Et donc, mon quartier était peuplé de familles mixtes, beaucoup d'Italo-Québécois.
Vous ne nommez pas, mais c'est Ville-Saint-Michel. C'est ça, on reconnaît Bélair, Deuxième Avenue.
Voilà, vous avez évoqué Rosemont tout à l'heure. Ouais. Mais ça, c'était juste au sud, à un jet de pierre dans le parc Bélair. Mais oui, c'est Saint-Michel. Et donc, on avait beaucoup d'Italo-Québécois de plus ou moins proche arrivée après la Seconde Guerre. Et Nina faisait partie de ceux-là. Et elle faisait partie des... parce qu'on avait les bons Italiens puis les mauvais Italiens.
Ouais.
Hein. Ça, c'est une autre affaire que j'aborde assez peu, mais c'est ceux qui allaient à l'école française puis ceux qui allaient à l'école anglaise. Ouais. Parce qu'à l'époque, le choix existait. C'était bien avant la loi 101 pour certains de vos auditeurs plus jeunes.
Et puis, il y a eu tout le combat de Saint-Léonard aussi. Et
voilà, exactement.
Ouais, c'est l'époque. Ouais.
Et donc, c'était une belle brune piquante qui a... Et alors, j'ai raconté cette histoire parce que c'est quand même bizarre d'associer l'odeur du gyps du J-Proc, pour parler français, avec l'éveil de la sexualité. Mais dans ce cas-là, c'est absolument vrai, j'ai rien inventé. Et donc, dans un immeuble en construction où ça sentait le digiproc parce qu'il n'y avait rien de fait encore, ben tout était à faire avec la belle brune.
Oui, l'odeur des frites de chez Silvio, roi de la patate. J'avais oublié ce lieu-là, l'enseigne avec plein de lumière et les CC.
J'ai rien inventé.
Non,
hein?
Le Brut 33 de Fabergé, c'est votre premier parfum. C'était l'odeur de mon père mort. Et c'était le bout de la marde à l'époque, le Brut 33. Parfum de pharmacie, mais on croyait que c'était le fin du fin à l'époque.
Ben, je comprends. D'ailleurs, en principe, on s'étonnait lorsque les filles ne tombaient pas à la renverse. Pourtant, c'est assez puissant pour ça.
Ouais.
Mais après, on a découvert autre chose, bien sûr. Mais le Brut, oui, c'était l'odeur de l'époque.
Ouais, vous évoquez un Montréal qui est disparu essentiellement. Est-ce que vous aimez toujours Montréal? Vous ne l'avez jamais quitté, sauf erreur. Vous êtes dans Outremont maintenant, mais vous êtes toujours resté à Montréal. Est-ce que vous l'aimez toujours, Montréal, Michel Desautels?
Oui, bien qu'il ait beaucoup changé, et pour rester plus proche de cette géographie que j'évoque, là, de Saint-Michel, là, a beaucoup changé. En 60 ans et un peu plus, là, c'est l'époque que couvre ma vie. Au départ, tiens, les Italiens qui étaient venus ici après la guerre, c'était nos seuls étrangers, entre guillemets, à nous. Mais ensuite, sont venus deux vagues successives d'Haïtiens.
Ouais.
Et puis aujourd'hui, des vagues successives de Maghrébins. Les Haïtiens sont encore là, ont migré un peu vers le nord. Les Italiens sont partis vers Laval, vers Ville-Saint-Laurent, etc. Donc, 60 ans, cette ville-là, qui en est pas vraiment une. On sait pas c'est quoi, d'ailleurs, Saint-Michel. C'est pas une banlieue, c'est pas une zone industrielle. Ouais. Même les carrières sont fermées depuis longtemps et émettent des gaz de méthane dont on sait pas quoi faire. Bref, les choses ont énormément changé. Malgré ça, j'aime bien cette ville. Elle est laide à plusieurs égards, on le sait. Difficile à vivre, surtout si on veut circuler. Mais en même temps, c'est la mienne. Et je suis indécrottable là-dessus.
Quelle est l'odeur des élections de Montréal actuellement, Michel?
Ben, c'est pas comme dans les élections au Parc Bel Air, où là, moi, j'avais fait preuve de beaucoup d'imagination pour détourner le vote.
Surtout... Du jus d'orange dans les fontaines, c'était ça votre promesse?
Oui. Oui, parce que le Parc Bel Air n'était pas très grand, mais il y avait une élection à chaque été.
Oui.
Et il y avait une petite barboteuse, qui est disparue d'ailleurs malheureusement aujourd'hui. Et à la barboteuse, qu'est-ce qu'on trouve? Les barbotins. Ces petits-enfants, les plus jeunes du parc, en fait.
Ouais.
Et les jeunes, c'est connu, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est vraiment niaiseux. Et donc, je me suis dit, la seule façon pour moi de gagner, c'est de leur en raconter des bonnes. Donc, j'avais attiré leur appétit de tata en promettant donc du jus d'orange. Et finalement, j'en ai eu assez pour emporter la majorité. Courte, mais majorité quand même, ce qui a fait de moi... pendant le reste de la saison, le maire du Parc Bel Air.
Et vous n'avez pas été renversé malgré la promesse non tenue. Les gens oubliés, comme on fait tout le temps en politique.
Bon observateur!
Michel, en terminant, je vous ai préparé un questionnaire des odeurs.
Oh.
L'odeur qui vous manque le plus?
Ah, alors, c'est une réponse aussi nounoun que votre question.
Michel, les hôtels même pas.
Non, qui aime bien châti, bien, c'est pas vous que je vais apprendre ça.
Oui.
Non, mais une chose à laquelle j'ai pensé ces derniers jours, et qui est, elle, complètement disparue, l'odeur des câbles de bateau. Moi, j'ai passé 4 étés en Gaspésie quand j'étais enfant et comédien. Et les cordages de bateaux avec lesquels on attachait les goélettes au quai, ça n'existe plus. Ça, maintenant, tout ça est en nylon ou en je ne sais pas quel matériau synthétique. L'odeur du câble mouillé, c'est unique au monde. En plus, c'est dans l'eau salée avec les petites herbes qui s'y accrochent. C'est une odeur que je n'ai pas ressentie depuis... 50 ans.
Ouais.
Mais ça, vous voyez, en vous en parlant,
vous auriez pu écrire...
J'ai une petite larme.
L'odeur de votre dernière journée à Radio-Canada avant de prendre votre retraite, Michel Desautels.
Ah, la belle odeur de liberté. pas être obligé de me lever le matin, mais je le fais quand même encore. Je suis encore debout à 6 heures
Prenez des pilules.
Les personnes âgées n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil.
Ah non, vous avez le sommeil fragmenté.
Oui.
L'odeur qui vous fait sentir romantique, trop chaud, orné à tout coup, Michel.
Malheureusement, l'entrevue est terminée. Hein.
Vous voyez qu'il reste 10 secondes.
Je regarde votre chrono, c'est dommage.
9 secondes, le temps de rappeler que votre récit Parfum de Craquin sera en librairie demain. Vous l'achetez parce que c'est franchement sympathique. C'est publié chez Boris. C'est plus que sympathique. On dit sympathique d'habitude pour quelque chose de pas très bon. C'est très bon. Vous serez au Salon du Livre de Rimouski au début novembre et au Salon du Livre de Montréal à la fin novembre. C'est un grand plaisir de vous recevoir, Michel Desautels.
Merci.
Restez avec nous. On a deux petits tanas qui sont là. Là.
Salut, c'est Biz de Loco Locas. Vous écoutez Simon et Tyler à La Journée est encore jeune.
Ah, qu'on les aime.
Hey, ça a-tu pas de bon sens? Êtes-vous au courant des horreurs qui se produisent sur la Terre en ce moment? Ça a pas de bon sens ce qui se passe dans le monde.
La planète va tellement mal et les preuves sont toutes autour de nous.
Il y a eu des meurtres dans toutes les maisons de mon quartier si je me fais au banderole de police d'un fenêtre.
Il y a tellement de décès, ils ont même plus de place dans les cimetières. Le monde a commencé à enterrer leurs proches sur leur terrain. Puis ils font même pas une si bonne job. On la voit, la main qui dépasse. Puis des fois, c'est même le haut du corps au grand complet.
Comment ça, il y a des traces de mains ensanglantées partout, c'est vite des subways puis des gens coutus, mais qu'on parle rien que de Trump aux nouvelles?
Le gouvernement devrait arrêter de se casser la tête avec la laïcité puis se casser la tête avec les araignées géantes sur la pelouse de mon voisin.
Hey, on parle de l'importance du français au Québec. Hey, on peut-tu parler de l'importance des squelettes avec des gros yeux qui brillent?
C'est pas le réchauffement climatique qui va finir par nous achever. C'est le maniaque à tronçonneuse puis les vampires zombies qui m'ont couru après en sortant du Goliath pendant que j'étais à la ronde.
Eh bien, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Le monde n'est pas en train de s'écrouler. C'est parce que c'est l'Halloween qui approche et ce sont des décorations.
Eh oui, c'est l'Halloween. Et c'est pourquoi les rues de votre quartier risquent de ressembler à une scène du film Halloween.
C'est le mois des frousses. Et pour l'occasion, on a décidé de vous raconter une histoire horrifiante.
Donc, bienvenue à La Journée fait encore peur. Vous écoutez une chronique cauchemardesque de six monstres et terreur. Six
monstres. Êtes-vous prêt à entendre une légende qui va vous glacer la piste?
L'histoire qu'on va vous raconter est très effrayante. Donc, si vous écoutez ceci et que vous êtes une femme enceinte, on vous suggère de ne pas boire d'alcool ou de fumer de cigarettes.
Les événements se sont déroulés un vendredi 13, le jour de l'Halloween, à 6h66. C'était la pleine lune ce soir-là. On n'en voyait rien qu'une partie, mais on savait qu'elle était pleine parce qu'on l'avait déjà vue au complet.
Une gardienne s'était fait appeler pour garder un enfant dans un cimetière abandonné. L'enfant habitait avec ses parents décédés.
On disait que ce cimetière était hanté parce qu'il était bâti sur un ancien cimetière autochtone, qui, lui, était bâti sur une maison hantée, qui, elle, était bâti sur la station Vendôme.
En roulant sur l'autoroute lugubre qui menait au cimetière, la gardienne entendit un flash spécial à la radio. Le psychopathe cannibale, tueur en série fou qui vient d'être libéré de prison pour bonne conduite, a immédiatement tué et mangé une personne en sortant.
La police recherche activement un homme entre 35 et 40 ans, grands yeux verts, cheveux bruns, romantique avec un bon sens de l'humour, doit aimer la fine cuisine et les longues marches sur la plage.
En entendant cette nouvelle, la gardienne avait la chair de poule dans son Barry Kentucky et elle l'a mangé.
À ce moment, elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. En répondant, elle a entendu une voix machiavélique lui dire « 7 jours! Éco-vedette! Elle Québec! Je vends des abonnements de magazines! » Elle a immédiatement raccroché.
En regardant l'afficheur, la gardienne réalisa que l'appel venait du deuxième étage. Ah oui, on a oublié de vous le dire, mais la gardienne conduisait, tu sais, un genre d'autobus londonien rouge à 2 étages. C'est de quoi je parle, en tout cas.
En arrivant au cimetière, la gardienne est tombée sur le petit garçon. Il avait été décapité à mort et à côté de son cadavre était écrit en sang « Joyeux Halloween, Montréal!
» C'est extraordinaire, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui. Mais bien sûr, tout ça n'était qu'une légende. À moins que ce soit plus un genre de conte.
On espère que cette histoire ne vous a pas trop fait venir de peur.
À la fin de la journée, les vraies histoires de peur, on les voit tous les jours à la télévision. Ça s'appelle les nouvelles. Et ça peut faire bien plus peur que la momie ou un loup-garou. Et c'est pour ça que c'est important de continuer de célébrer l'Halloween. Pour s'habiller en sorcière sexy, en tueur en série sexy ou en géant hamburger sexy.
C'était Simon Street Terreur, Radio-Canada Dracula.
Ah, vous êtes formidables!
Il y aura toujours Émilie Perrault.
Une autre qui est formidable, c'est Émilie Perrault.
Oui, semaine complètement folle en sortie littéraire demain. L'autobiographie de Lisette Lapointe. Oui. Mercredi, le premier livre de Pascal Monpetit. Ça va faire beaucoup jaser. Vendredi, Michel Desautels au CV de spectateur. Lui aussi lance un livre. Michel Jean aussi lance un livre. Grosse semaine, Jean-Sébastien.
Michel Desautels lance un livre. J'aimerais ça le savoir avant. Merci beaucoup, Émilie Perrault.